France Culture.
France Culture, question du soir, Antoine Dulster.
C'était l'un des films les plus attendus de cette fin d'année. Le troisième volet de la série Avatar de James Cameron a pris d'assaut les salles de cinéma depuis une semaine. Certes, l'engouement autour du monde d'Avatar est peut-être moins présent qu'au moment de la sortie du premier volet en 2009. Mais cet événement cinématographique nous permet de nous interroger sur ce que ce film et cette série nous disent de notre monde en crise, que cette crise soit écologique, politique ou géopolitique. Car derrière l'apparence d'un récit de science-fiction sur la lointaine Pandora, derrière la chronique d'une guerre entre l'humanité et le peuple Navi, ces films portent bien un propos sur notre présent. La chose n'a pas échappé aux chercheurs, aux intellectuels et aux journalistes qui multiplient les parutions autour des lectures possibles de la série Avatar. L'un de ces ouvrages a retenu toute notre attention. Il est signé d'un anthropologue que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui. Bonsoir, Péric Pitroux.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS, à la Maison française d'Oxford et au laboratoire d'anthropologie sociale du Collège de France. Vous êtes donc l'auteur d'un ouvrage paru aux presses universitaires de France, « Comment habiter notre planète ? Une lecture d'Avatar ». Merci d'avoir accepté notre invitation dans « Questions du soir ».
Il n'est rien de plus pur en ce monde. Le feu est venu de la montagne pour brûler notre forêt.
J'ai envie de le voir avant tout le monde. J'ai envie d'être la première à aller. Non, j'ai pas envie d'être spoilée de 1. Et je suis fanatique, j'adore.
C'est une tradition pour nous de venir dès la première projection quand un nouvel avatar sort.
Ce monde est tellement plus profond qu'on ne l'imagine.
On vit aujourd'hui dans un climat où il y a beaucoup de haine, où on s'affronte souvent. Et ce film invite les gens à se regarder les uns les autres différemment, à faire preuve de plus d'empathie. Donc oui, peut-être que c'est le bon film au bon moment.
Si tu veux propager ton feu à travers le monde, t'as besoin de moi.
On doit se battre!
Mais je me suis pris ma petite claque quand même. Visuellement, c'est époustouflant, incroyable. C'est mon préféré des trois.
On est prêts pour le quatrième.
Voilà, la voix que nous entendions il y a quelques instants, vous l'avez peut-être reconnue, c'était celle de James Cameron, réalisateur de la série Avatar, avec aussi un petit florilège de réactions des spectateurs de l'avant-première à Paris dans un reportage de nos confrères de France 2. Alors, Péric Pitroux, avant d'entrer dans le propos de votre livre véritablement, quelques mots peut-être sur ce troisième volet et ce que vous en avez pensé. Les fondamentaux de l'univers Avatar sont-ils toujours là et est-ce que c'est la même matière qui nous aide à penser notre monde ?
Oui, alors j'ai moi-même vu Avatar cette semaine. Alors pas le jour de la sortie, je l'ai vu dimanche, ce qui m'a laissé le temps justement d'être un peu spoilé, comme le dit un des spectateurs. Donc je connaissais un petit peu certaines nouveautés et j'ai aussi lu certaines critiques qui parfois insistaient sur la longueur du film et une impression de répétition. Donc je vais pas justement répéter ces critiques concernant la répétition. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est de voir ce qu'il y avait de nouveau par rapport aux deux premiers épisodes que je traite dans le livre. Donc, dans la mesure où je considère qu'Avatar est un film anthropologique, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment la question de la différence culturelle est mise en scène, en fait, dans les trois épisodes. On a beaucoup dit qu'Avatar mettait en scène une relation à la nature. C'est évidemment le cas. Mais il y a aussi un jeu sur la différence des cultures. Dans le premier épisode, c'est entre les humains et les Navi. Dans le deuxième épisode, il y a une complexification en faisant apparaître en fait le passage d'une culture forestière à une culture maritime. Et dans le troisième épisode, donc paru cette semaine, avec la culture des Mangwans, qui est donc cette nouvelle invention de Cameron, on a une culture qui vient complexifier en fait la comparaison entre les différentes sociétés.
Alors, vous publiez donc cet essai très stimulant autour de l'univers d'Avatar. Donc, avant d'entrer dans le détail de votre propos, Péric Pitroux, peut-être une réflexion, et c'est assez peu commun pour un anthropologue de s'intéresser à un objet culturel tel que cette série de films. Pourquoi un anthropologue tel que vous s'intéresse-t-il à une série comme Avatar ?
Alors en fait, je me suis intéressé il y a quelques années à la diversité des façons de concevoir la vie et le vivant dans des sociétés humaines. Et j'avais organisé un festival de films au cinéma Grand Action, enfin c'était un cycle de films débat pendant 3 ans, sur les représentations en science-fiction de la vie extraterrestre, à la fois entendue comme une vie biologique, mais aussi comme une vie sociale. Et en présentant presque une 30aine de films, il est apparu que dans Avatar, il y avait quelque chose de très particulier, de très construit et qui suscitait beaucoup de questions anthropologiques. Je vais juste revenir un petit peu sur ce que je vous disais sur l'introduction d'un nouveau groupe, donc avec le peuple des Mangwan. Ce que ça apporte, c'est finalement une réponse à des critiques qui ont été faites, consistant à dire que les Na'vi, donc les peuples anthropoïdes de Pandora, étaient une représentation du bon sauvage et que, symétriquement, on reprochait aussi de montrer les humains comme des êtres méchant, foncièrement violent. Et en fait, en mettant en scène un peuple autochtone violent, voire même nihiliste, il y a une façon en fait de créer un pli supplémentaire dans le modèle comparatiste.
Là, c'est donc bien le troisième épisode.
C'est le troisième épisode, oui.
Alors, venons-en précisément au cœur de votre propos. Les leçons d'Avatar pour habiter notre planète, cette réflexion dans votre ouvrage s'articule en 4 temps. Et c'est un découpage, Péric Pitroux, qui vous est inspiré par vos travaux sur l'anthropologie de la vie, en quoi vos précédentes études, et notamment cet ouvrage, Ce que les humains font avec la vie, qui était paru aux Presses universitaires de France en 2024, en quoi ces travaux vous ont-ils permis d'analyser cet objet culturel très singulier ?
Alors effectivement, dans le dernier livre paru, donc Ce que les humains font avec la vie au PUF l'an passé, c'est un ouvrage très très universitaire, assez long, de plus de 500 pages. Je constate en fait qu'un certain nombre d'anthropologues abordent la question de la vie à partir de perspectives très distinctes. Et à partir d'enquêtes, de lieux d'enquête, de méthodologies distinctes. Et donc, ce livre a deux objectifs. Le premier, c'est d'identifier des problématiques suffisamment larges pour comparer, en fait, mettre en relation toutes ces enquêtes. Et le modèle que je propose, c'est de dire que dans toutes les sociétés humaines, on rencontre un effort pour socialiser le pouvoir de la vie et pour prendre soin de la fragilité des vies humaines. Alors, je vous donne 2 exemples. Prendre soin des vies humaines, c'est toutes les activités médicales ou de soins des enfants. Donc, dans toutes les sociétés, on se rend compte qu'il y a une façon d'être attentif à cette fragilité des existences. Mais on rencontre aussi une tentative pour socialiser le pouvoir de la vie, par exemple dans des rites qu'on rencontre dans beaucoup de sociétés, qui visent à capter en quelque sorte les pouvoirs de la nature ou le pouvoir de certaines entités. Et donc, le premier objectif de Ce que les humains font avec la vie, c'est de montrer que cette articulation entre socialisation des pouvoirs de la vie et prise en charge, en quelque sorte, de la fragilité, eh bien, on a un universel anthropologique qu'on peut observer parce que ça laisse des traces sur les formes d'organisation sociale.
Alors, ça évoque aussi les travaux de Philippe Descola, ce que vous expliquez, faire société avec la nature, Péric Pitroux. Ça, c'est une des leçons aussi de l'anthropologie.
Alors, tout à fait, effectivement. C'est un programme qui doit beaucoup à l'anthropologie de Philippe Descola, qui a été mon directeur de thèse il y a quelques années, et qui prend en compte le fait que, les humains doivent faire avec, en fait, des puissances qui sont dans la nature, à la fois les vivants non humains, mais aussi ce que Martial Salins appelle les métapersonnes. C'est des entités qui sont capables, en quelque sorte, qui détiennent le pouvoir de vie et de mort, et que les humains, quel que soit le pouvoir qu'ils exercent sur le vivant, ils peuvent élever des enfants ou des animaux, cultiver des végétaux, soigner des êtres vivants. Mais quelles que soient les actions qu'ils réalisent, ils sont pas sûrs du résultat. Et c'est pour ça que, dans toutes les sociétés, on rencontre cette idée que le pouvoir de la vie et de la mort est détenu soit par des métapersonnes, soit par la nature. Mais en tout cas, les humains n'ont pas un contrôle complet là-dessus.
Alors, vous venez d'évoquer Martial Salins. On a évoqué aussi, il y a quelques instants, un grand anthropologue, Philippe Descola. Alors, vous avez un peu devancé mon propos, Péric Pitroux, mais je voulais justement vous faire entendre la voix de ce grand penseur de l'anthropologie, Martial Salins, qui s'exprimait sur France Culture en 2011. Il parlait de l'économie des sociétés primitives, des économies de subsistance, mais aussi des économies d'abondance.
que the data about these people is that they didn't work very much.
Ils ne travaillaient pas beaucoup.
They worked 2 or 3 hours a day at the most.
Ils travaillaient 2-3 heures par jour, au plus.
And it seems there's an inverse relationship.
Il y a une relation inverse
the amount of work that people do and the
le travail fourni
and the complexity of their
et la complexité de leur économie.
So the people with the supposed subsistence economy,
les gens qui sont censément dans une économie de subsistance, les chasseurs-cueilleurs que nous connaissons ne travaillaient pas de très longues heures. En fait, ils dormaient beaucoup plus dans la journée que qui que ce soit depuis.
Voilà, c'était Marshall Saline sur France Culture en 2011, au micro de Francesca Isidori. Alors, ce grand penseur de l'anthropologie, Péric Pitroux, dont vous connaissez bien les travaux, évoque effectivement ces méta-personnes que vous venez d'évoquer il y a quelques minutes. Dans Avatar, il y a une méta-personne, c'est la Terre-Mère, Eiwa. Et vous écrivez qu'en exerçant le pouvoir de la vie, Eiwa participe à ce que Saline appelle une politique cosmique. En quoi cela consiste-t-il précisément?
Ça veut dire que la société, par exemple dans le premier épisode des Omaticaya, donc les Na'vi des forêts, vivent dans une société horizontale avec assez peu de hiérarchie. Cela étant dit, il y a quand même un chef guerrier et il y a aussi une chef spirituelle, une chamane. Et ces deux chefs sont eux-mêmes en quelque sorte dépendants du pouvoir de Eiwa, la terre-mère, la mère nature, qui est capable de soigner, de guérir, de protéger les enfants au moment de leur naissance. Et quel que soit le pouvoir en fait des chefs politiques Na'vi, ils doivent en passer par cette instance planétaire, puisqu'elle exerce un pouvoir à l'échelle de la planète. Et donc c'est là où il y a une politique cosmique, c'est-à-dire que il y a l'idée que la politique, c'est aussi l'idée que Philippe Descola développe dans ses ouvrages. On ne décrit pas simplement la politique comme une relation interhumaine ou inter-navi. Il faut aussi prendre en compte la participation des entités non humaines.
Alors les entités non humaines, c'est une chose, la Terre-Mère, c'en est une autre. Que montre ce film sur le rapport précisément de l'homme à son environnement et à la technique en particulier, les techniques qui transforment l'existence? Côté humain, dans la série Avatar, on voit qu'il y a cette redéfinition du corps par une utilisation des sciences, des techniques. Les limites du corps humain sont repoussées. Ça apparaît assez nettement dans la série. Les Na'vi, donc le peuple habitant Pandora, fait pareil, mais ils établissent des alliances, non avec des objets, mais avec le vivant. Donc il s'agit pour eux de faire et de construire avec le vivant. Donc cette entrée de la technique, qui constitue l'un des chapitres de votre ouvrage, Péric Pitroux, elle nous permet de comprendre justement comment habiter notre planète à notre tour.
Oui, alors il y a deux grandes dimensions. La première, effectivement, c'est la façon dont les techniques s'articulent au corps. Et évidemment, il serait assez simple de dire, il y a une scène au début, on voit donc du premier épisode, où on voit la roue d'un grand camion dans laquelle sont plantées plusieurs flèches. Et donc ça évoque l'idée qu'il y aurait un peuple resté dans une sorte d'état de culture matérielle très rudimentaire face à la technologie humaine. Et il serait facile de lire en fait le film comme une opposition entre technique et nature. En fait, le propos de Cameron est beaucoup plus complexe, parce qu'en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il met en contraste deux types de techniques. Les techniques humaines qui développent donc des moyens de transformer, de locomotion, des armes, des milieux artificiels, et les techniques Na'vi qui eux-mêmes en fait développent des techniques du corps, des armes et surtout des techniques du vivant, comme vous venez de le rappeler, qui sont par exemple des façons de se connecter à des animaux comme des chevaux, des oiseaux volants ou des poissons volants.
Et donc cette connexion, c'est une connexion à prendre au sens propre, puisque dans le film on voit effectivement apparaître ce lien organique entre les Na'vi et justement leurs animaux de monture précisément.
Alors effectivement, là on a vraiment mis en scène une... c'est aussi une technique, de la même façon quand vous chevauchez votre cheval, vous exercez une technique pour coordonner les mouvements de votre corps avec ceux d'un animal. Et bien là c'est une technique, mais qui repose sur l'idée de quasiment cohabiter un même corps, c'est une alliance avec le vivant. Et de la même façon, avec les tresses neuronales, les navis sont capables de se connecter à des végétaux et avoir accès en fait à tout un stock d'images, de mémoires qui sont conservées par AIWA et qui sont mises à disposition. Et donc là, il y a une sorte de mise en miroir des techniques avatars qui permettent de, aux humains de se déplacer dans un autre corps, qui leur permet de vivre une expérience à distance. Mais il faut un lourd appareillage technologique, matériel, pour rendre possible ces prouesses. Chez les navis, en fait, il suffit d'avoir une technique qui est connectée en fait aux puissances même de la nature. Et on voit bien que dans les trois épisodes, cette alliance avec le vivant et avec AIWA en tant que métapersonne, eh bien, est plus performante que la technique humaine, puisque à trois reprises, en fait, les humains sont mis en déroute.
Et donc, en creux derrière cette question de la technique que vous interrogez dans votre livre, Péric Pitrou, apparaît un traitement très différencié de la question écologique, en réalité.
Alors, tout à fait, effectivement. Alors, c'est le deuxième point que je voulais évoquer, c'est que la technique n'agit pas simplement sur les corps et leurs extensions. Il y a aussi très clairement une façon de mettre en scène la construction de milieux. Et donc, souvent on dit que Avatar et Cameron défendent l'idée d'une protection de la nature contre la destruction des écosystèmes. C'est pas faux. Mais on pourrait aussi souligner que Cameron est un réalisateur fasciné par la technologie, qui a créé des environnements artificiels depuis, évidemment, Alien jusqu'à Titanic, et qui a aussi eu l'habitude de sillonner les mers dans des sous-marins. Et donc, dans le film, en fait, on peut aussi décrypter un effort pour faire coexister les milieux naturels et les milieux artificiels. Ce que j'explique dans le chapitre 3 de mon livre, c'est qu'il y a une mise en scène des systèmes support-vie, qui sont par exemple les vaisseaux spatiaux, les masques pour respirer, les caissons qui sont posés sur la planète. Et on a clairement mis en scène deux manières d'habiter la planète. La manière humaine qui en fait crée des systèmes clos, des systèmes qui sont complètement contrôlés aussi par
l'action humaine. De superposition,
effectivement. Il y a même une tentative de terraformation. Et je parle de terra-déformation, puisqu'il y a l'idée, en fait, qu'il faudrait façonner la planète Pandora à l'image, ou plutôt pour l'usage des humains. Mais, les navis ont aussi, eux, eu une action sur les milieux. Ils ont construit, par exemple, des maisons, ou en tout cas des habitats, qui ont la particularité d'être ouverts sur la forêt ou sur les littoraux, d'être insérés dans les arbres ou bien dans la mangrove, avec cette idée en fait que la manière d'habiter le monde des navis se fait sans instaurer justement de clôture. Et elle utilise aussi des matériaux biosourcés, tant et si bien qu'on a l'impression d'une manière d'habiter le monde qui se fait dans le prolongement en fait de l'écosystème naturel, et non pas en rupture, non pas sous une forme de l'imposition.
Et donc, si vous avez bien lu, ça veut dire qu'Avatar invite à penser l'habitabilité de façon moins anthropocentrée. En réalité, il s'agit de s'adapter à une écologie planétaire, donc sans tout détruire, pas être terra déformation, c'est bien ça.
Oui, alors effectivement, je justifie l'emploi de cette idée d'habiter et d'habitabilité en rappelant qu'il y a plusieurs significations, plusieurs acceptions de ce terme. Par exemple, en exobiologie, dans le domaine de la recherche des exoplanètes, les astrophysiciens cherchent à observer des planètes qui sont situées dans la zone d'habitabilité, ni trop proche, ni trop éloignée de leur étoile, tant et si bien qu'on pourrait imaginer trouver de la vie. L'habitat, c'est aussi l'habitat écologique qui fait que, donc c'est un concept qui s'est développé au 19e siècle, que dans un environnement donné, chaque espèce va avoir son propre habitat, et il y a l'idée de cohabitation, par exemple dans une forêt. L'habitat renvoie évidemment à l'idée de construire des milieux artificiels, donc je viens de vous dire qu'il y a deux façons de le faire. Et puis il y a une quatrième dimension du fait d'habiter, c'est aussi le fait d'habiter un corps, et il y a toute une réflexion dans le film là-dessus, puisque Jack apprend à habiter un corps qui n'est pas le sien, il apprend à avoir de nouvelles habitudes, et donc à développer des techniques pour s'insérer dans un milieu qui n'était pas le sien au début.
Alors, il y a de cette série Avatar peut-être des lectures orientées vers le New Age, pourquoi pas une forme de spiritualisme. Vous parliez d'AIWA tout à l'heure, cette connexion avec la Terre-Mère. Il faut aussi faire le constat que cette série de films est une série autour de la guerre, de l'affrontement. Et donc, c'est un film qui reprend aussi une série de films qui reprend tous les codes des films guerriers.
Alors effectivement, c'est un point souvent qui est moins traité, je dirais, d'une façon analytique. On dit qu'il y a beaucoup de scènes de guerre, souvent pour dire qu'elles sont un peu longues. Et en réfléchissant sur le film, je me suis posé la question, en quelque sorte, de l'après-coup. Qu'est-ce qu'on garde comme souvenir? Quelle est la mémoire que ce film produit? Alors, il y a à la fois des moments un petit peu de grâce, où les personnages sont immergés dans des environnements très d'une façon un peu onirique. Et en même temps, il y a une grande violence dans ce film. Et ça m'a conduit à réfléchir en fait à l'ambivalence du film qui reprend à la fois les codes hollywoodiens du film de guerre qui esthétise la violence et qui met en valeur le courage et une forme d'inventivité dans la guerre, mais en n'hésitant pas effectivement à montrer de grandes scènes de violence, alors du côté des humains mais aussi du côté des navires. Et en fait, je me posais la question de savoir l'effet produit par ces images sur les spectateurs. Dans le même temps, on reconnaît qu'il y a aussi dans une autre tradition, je dirais plus critique à Hollywood, avec des films par exemple qui ont émergé au moment de la guerre du Vietnam, il y a aussi des films de guerre qui montrent les travers de la guerre, la violence, à la fois la violence exercée contre les soldats, mais aussi contre les populations qui sont attaquées. Et évidemment, dans le film, on voit apparaître aussi cette souffrance, à la fois du peuple navi, mais aussi des animaux qui sont chassés, comme les toulkounes, avec cette thématique qui est intéressante, c'est vraiment la mise en scène d'une forme de d'écocide qui est donnée à voir dans tous les épisodes.
Alors, en quoi peut-on faire un lien peut-être avec un des courants que vous mentionnez dans votre ouvrage de l'anthropologie de la vie? Je fais référence à la préoccupation sur la fragilité de la vie et l'habitabilité de la Terre. C'est là un courant qui renouvelle précisément les sciences sociales et que vous avez donc reconnu dans cette série également.
Oui, alors je vais me permettre de faire un petit décalage parce que j'avais pas eu le temps de bien le préciser tout à l'heure. Le deuxième objectif de ce que les humains font avec la vie consiste à faire une cartographie de ce domaine en identifiant quatre grands courants de l'anthropologie. Donc qui aborde la question de la vie. Il y a les ethnologies des populations autochtones et en particulier amérindiennes. Il y a un courant qui est les études des sciences et des technologies qui étudient justement la construction des savoirs sur la vie et l'usage des biotechnologies. Il y a ce que j'appelle les écologies de la vie qui réfléchissent à la question justement de l'insertion dans les milieux. Et il y a aussi un courant qui aborde l'anthropologie de la biopolitique et aussi de la fragilité des vies ordinaires. Et c'est ce courant auquel vous faites mention. On peut mentionner des auteurs comme Didier Fassin ou Vinadas qui ont beaucoup apporté à la réflexion en anthropologie sur ces questions. De quoi s'agit-il? Il s'agit juste dans la description en fait anthropologique de trouver les moyens analytiques pour prendre en compte les phénomènes liés à la violence, les phénomènes liés à la fragilité à la fois des vies humaines mais aussi des ordres sociaux qui peuvent très rapidement vaciller en cas de guerre ou de catastrophe naturelle ou industrielle, prendre en compte aussi la question de l'inégalité des vies humaines. Et donc ces auteurs et autrices que je discute dans le détail dans ce que les humains font avec la vie ont permis à l'anthropologie d'ouvrir son champ comparatiste en disant qu'il faut comparer évidemment les peuples de différentes aires culturelles, mais comparer aussi comment au sein d'une même société, parfois sur un même territoire en se déplaçant de quelques kilomètres, eh bien on peut aussi voir qu'il y a différentes conditions de vie, différentes façons de vivre et aussi de faire l'expérience du social. Et dans Avatar, eh bien cette clé de lecture permet d'être attentif en fait à cette à la fragilité de l'ordre social et aussi au fait que faire la guerre et en souffrir, pendant très longtemps, ça a été vu comme un état un petit peu, je dirais, de sortie de l'ordre ordinaire et que la société ramenait les choses dans un ordre pacifique. On peut tout à fait tenir un discours un peu contraire et de se dire, en fait, la violence et la souffrance et la vulnérabilité sont constitutifs de l'existence humaine, en fait.
Alors, il y a donc cette lueur d'espoir qui apparaît en regardant ce film, Péric Pitrou, cette série de films plus précisément. C'est-à-dire que effectivement, la violence de la guerre n'est pas occultée, vous venez de le dire. Mais en même temps, on peut avoir accès à d'autres manières d'habiter cette planète. Et ça fait aussi écho à ce qui existe en Amérique latine, le concept du buen vivir. Alors, on peut peut-être s'y arrêter un instant. D'autres manières d'habiter précisément.
Oui, alors effectivement, dans le champ des revendications autochtones en Amérique latine, en particulier parmi les populations andines, il y a cette idée que le bien vivre, el buen vivir, décrit en fait une forme d'harmonie en fait dans l'organisation sociale, mais qui s'intègre dans une harmonie aussi dans les rapports avec l'environnement et avec les métapersonnes. Et donc, en gros, le bien-vivre est une façon d'envisager, d'une façon non segmentée, l'économie, la politique et la religion, et de dire qu'un horizon, en fait, du vivre-ensemble qu'il faudrait poursuivre, en tout cas que ces sociétés appellent à poursuivre pour ce qui les concerne, eh bien, consiste à essayer de penser d'une façon intégrative le rapport au Dieu, le rapport aux ressources, le rapport au vivant, le rapport à notre corps et le rapport à nos voisins. Et donc, c'est cette idée un petit peu intégrative qu'on voit aussi, en fait, apparaître chez les Navi, qui développent, en fait, des liens très étroits avec le vivant et aussi à l'intérieur de leur société.
Et donc, faire société avec le vivant, ces liens avec le vivant, bien, c'est source d'une réflexion très riche qui est donc le cœur de votre propos et de votre livre « Comment habiter notre planète ». Merci beaucoup, Péric Pitrou. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche au CNRS, à la Maison française d'Oxford et au Laboratoire d'anthropologie sociale du Collège de France. Merci à toute l'équipe de Questions du soir, à la préparation Bruno Barada, à la réalisation Hélène Trigueros, à la technique Olivier Arnet.